Merci.
Merci, Monsieur Félix. Je veux un peu savoir, Théodore, regarde au compte de Télé7, on parle de la présence de certains éléments M23 que la MONUSCO a créés dernièrement à la victoire. Parce qu'il y a eu la victoire sur le M23 dans notre pays grâce au concours de la MONUSCO avec les FARDC. Aujourd'hui, on parle de la présence de ces éléments à l'est du pays. Est-ce la MONUSCO confirme cette information? Et si c'est vrai, quelles dispositions avez-vous prises pour arriver à le mettre hors d'état de nuire?
Oui, merci pour votre question. Cette préoccupation est récurrente depuis dimanche, si mes souvenirs sont exacts, relatif à la présence des éléments du M23 qui se seraient évadés du camp de Bihanga pour se retrouver en Ouganda pour se retrouver en République démocratique du Congo. Du côté de la MONUSCO, nous avons non seulement déployé des troupes sur le terrain qui mènent des patrouilles à partir de tous les postes d'entrée en République démocratique du Congo, mais aussi en étroite collaboration avec nos collègues et partenaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aussi sur le terrain, parce que cette information, évidemment, implique bien sûr une revisite de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Nous avons aussi déployé des aéronefs qui ont survolé la zone et qui continuent à survoler la zone pour confirmer ou infirmer cette information-là, en plus du déploiement du mécanisme conjoint de vérification qui a été initié aussi depuis lundi en vue d'avoir une situation beaucoup plus clair concernant ces informations, la véracité de ces informations-là. Jusque-là, nous n'avons pas recueilli des informations ou des indices pouvant quand même confirmer la présence des éléments du M23 en République démocratique du Congo, mais le travail se poursuit et je peux tout simplement vous dire que le M23 avait été défait par les FARDC, soutenus par la MONUSCO au mois de novembre 2013, et suite à cela, ils s'étaient réfugiés en Ouganda. Il est vrai que aussi l'accord de Nairobi qui a été signé en 2013 aussi indiquait clairement, en décembre 2013, indiquait clairement la responsabilité de tous les pays parties prenantes à la signature de cet accord, notamment les 11 pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et aussi n'oubliez pas que cet accord avait été garanti par aussi bien les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Donc il est grand temps aussi pour que tous les acteurs signataires de cet accord-là puissent prendre leurs responsabilités, parce qu'il y avait des termes qui étaient clairs concernant la responsabilité de tout un chacun dans la mise en œuvre de cet accord signé à Nairobi et qui aussi signait ainsi la fin du M23 en tant que mouvement armé, et le M23 devait se muer en partie politique. Donc jusque-là, au risque de vous décevoir, nous n'avons encore aucune information palpable, fiable, recueillie sur le terrain, mais je peux tout simplement vous dire que notre détermination et notre engagement à combattre le M23 dans le cadre de notre mission qui est celle de la protection des populations civiles, évidemment cette détermination est là, elle est sans faille, et nous sommes prêts à engager le M23 si toutefois elle faisait une incursion en RDC et que les vies des populations civiles était menacée. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette question. Je prends la deuxième question ici à droite, s'il vous plaît. Passez le micro. Bon, s'il n'y a pas de candidat à droite, passez le micro à gauche. Je pense qu'il y a beaucoup plus de volontaires par là. Passez le micro, Symphorien, s'il vous plaît. Oui, merci.
RKT2 Développement, Laetitia Massella. Selon votre relevé humanitaire, comment se présente la cartographie de zones des sinistrés qui exigent une intervention efficace pour venir au secours de population? Merci.
Oui. Aude, cette question est à vous.
Est-ce que vous pouvez préciser la question?
Reprenez la question, s'il vous plaît.
Je dis ceci. Selon votre relevé humanitaire, comment se présente la cartographie de zones des sinistrés qui exigent une intervention efficace pour venir au secours de population?
Chats sont dans la salle pour pouvoir donner des compléments d'information.
Ah.
Bonjour à tous. Il serait bon de savoir de quelle zone vous parlez. Sinistré où? C'est votre question ou c'est sa question?
Oui, un peu de silence. Veuillez reformuler votre question, madame, s'il vous plaît. Oui, rapidement, donnez le micro, oui.
Yvan, selon votre relevé humanitaire, comment se présente la cartographie de zones désinistrées qui exigent une intervention efficace pour venir au secours des populations?
D'accord. Bon, c'est une question assez vaste. Je suppose qu'on parle de toute la RDC. La situation humanitaire en ce moment est marquée par plusieurs poches de crise, qu'on peut dire. On peut plus parler des inondations à Boma, dans le Congo central. On a aussi toute cette vague d'insécurité dans le Tanganyika avec les conflits communautaires entre les Luba et les Toa. Dans l'Ituri, on a aujourd'hui, avec la présence des réfugiés sud-soudanais, c'est aussi un théâtre d'opération pour nous. Évidemment, sans compter le Nord Kivu, Sud Kivu, donc voilà. Donc, c'est une situation qui n'est pas très radieuse, mais comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, nous sommes sur les acteurs humanitaires dans les Nations Unies que ONG sont sur le terrain et essaient de faire de leur mieux pour soulager les personnes qui sont dans le besoin.
Oui, merci. Donc, nous nous rendons à Goma pour prendre aussi deux questions. Goma, vous avez le micro pour deux questions, de préférence une dame.
Merci beaucoup. C'est Rodriguez Katouba, journaliste indépendant. J'aimerais poser deux questions. D'abord, par
une
rapport
seule,
à la présence
une seule, s'il vous plaît.
De réfugiés et...
une
et
question, des, s'il vous plaît, à Goma.
Sud-soudanais sur le sol congolais. Il y a récemment la MONUSCO qui avait dit s'inquiéter de cette présence. Et on aimerait savoir, est-ce que leur retour continue à être programmé, parce que ceux d'ailleurs du territoire de Nyiragongo, après une réunion avec la MONUSCO, avaient exprimé le vœu de vouloir revenir chez eux. Et qu'en est-il maintenant? Et deuxième question, c'est...
Non, une seule question, s'il vous plaît. Une question. Une seule question, s'il vous plaît, monsieur. Une seule question.
L'appui de la MONUSCO s'arrête seulement à aider à la logistique ou bien à la sécurisation aussi, parce que les gens de Kamelan Sapou auraient pris certains matériels, certains kits en otage, et même dans le Massissi aussi, tentative de vol de certains kits. Est-ce que vous sécurisez aussi les centres d'enrôlement? Est-ce que c'est aussi dans l'appui que la MONUSCO a amené à la CENI? Merci beaucoup.
Oui, merci. Je rappellerai tout simplement à mon collègue de Goma que vous avez droit à une question et il faut vous y conformer. Nous avons besoin de travailler de manière disciplinée pour donner la chance à tout un chacun. On répondra à votre première question qui concerne les Sud-Soudanais. Oui, vous avez parfaitement raison de poser le problème des Sud-Soudanais parce que depuis le 12 janvier dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mamman Sambo Sidikou, accompagné de M. Saïd Dinit, qui, comme vous le savez, est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ont donc initié une série de contacts qui les a menés successivement au Nord Kivu, mais aussi ici à Kinshasa. Au Nord Kivu, ils ont eu à échanger avec les autorités provinciales qui leur ont fait part de leurs préoccupations concernant la présence de ces éléments sud-soudanais désarmés dans la province du Nord Kivu, qui, comme vous le savez, a déjà vécu les affres de la violence pendant très longtemps. Mais aussi, ces deux autorités ont eu à rencontrer les combattants, les ex-combattants de Riek Machar, qui sont cantonnés dans la base de la MONUSCO qui est sise à Munigi. Au cours de ces entretiens, ces ex-combattants ont clairement déclaré qu'ils n'avaient plus l'intention de poursuivre le combat, donc ils mettaient un terme à leurs activités militaires, si on peut le dire comme ça, et qu'ils voulaient rentrer dans un pays tiers, mais afin de que la MONUSCO les aide à favoriser le regroupement familial dans un des pays qui voudrait bien les accueillir. Donc, compte tenu de tout cela, ces deux autorités ont clairement compris les préoccupations des populations du Nord Kivu et se sont engagés à mettre tout en œuvre avec les acteurs politiques de la sous-région, mais aussi d'autres partenaires de la RDC, notamment l'autorité gouvernementale qu'on appelle IGAD, mais aussi avec l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires de la RDC pour trouver une solution. La deuxième phase de cette série de contacts initiés donc depuis le 12 janvier a été ici à Kinshasa, où ces deux autorités des Nations unies ont eu à rencontrer les autorités congolaises, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et certaines autorités, afin d'échanger avec eux et avoir une solution définitive à la présence de ces Sud-Soudanais. Ce qu'il faut tout à fait qu'il faudra d'abord relever, c'est justement cette volonté du gouvernement congolais à s'impliquer pleinement dans la résolution de cette crise. Et c'est pour cela qu'une proposition a été soumise, c'est la mise en place d'un comité technique conjoint qui puisse lever les options nécessaires concernant la relocalisation ou la délocalisation de ces ex-combattants vers d'autres pays. Alors c'est ainsi qu'ils poursuivront cette série de contacts très bientôt pour aller dans la sous-région, que ce soit à Addis Abeba, que ce soit à Djouba au Sud-Soudan, pour essayer de trouver une formule. Ce problème des Sud-Soudanais est un problème qui concerne tout le monde. Il concerne la région des Grands Lacs, c'est d'ailleurs pour ça que M. Saïd Djili était là, mais il concerne aussi les pays de la sous-région, les voisins de la RDC, mais aussi les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, afin de pouvoir démarcher des volontaires qui voudraient bien accueillir ces Sud-Soudanais dans leur pays respectif. Donc la dynamique est enclenchée et nous pensons qu'elle sera elle engagera des succès dans la mesure où ce comité technique permettra effectivement d'explorer les voies et moyens pour trouver une solution définitive à la présence de ces ex-combattants ici en RDC. Donc nous restons à Goma pour prendre une deuxième question.
La deuxième aspect de la question, la sécurité.
Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Processus électoral.
Non, une deuxième question. Donnez à quelqu'un.
Madame Aldora, s'il vous plaît. Allez-y, parlez, s'il vous plaît.
Je suis Marie-Noël Bouya. Je voudrais que la MONUSCO puisse évaluer, s'il vous plaît, son appui logistique du point de vue transport des kits électoraux, parce qu'on apprend qu'à Walikale, il y a beaucoup, beaucoup encore de coins qui n'ont pas reçu leur kit électoral, mais aussi à Matissis, en début de cette semaine, il y a eu des plaintes dans ce sens-là. Merci.
Oui, merci Aude. Vous avez des éléments de réponse concernant le soutien au processus électoral?
Non, l'appui du programme PASSEC, du projet PASSEC, continue au niveau de l'appui technique, suivant le plan qui a été établi, mais au niveau plus précis de l'acheminement du matériel, je n'ai pas de précision à mon niveau.
Oui, je voudrais tout simplement compléter pour dire que effectivement le déploiement du matériel et des kits électoraux a déjà été initié depuis fort longtemps et aujourd'hui au niveau de la province du Nord Kivu, comme vous le savez, les opérations ont démarré. Ce qu'on peut vous dire de manière très globale, c'est qu'à ce jour, nous avons eu déjà à déployer 1400 tonnes de matériel et des kits électoraux en soutien à la CENI qui, dans ses efforts pour déployer ce matériel, est sur le terrain. Et donc, les différentes aires géographiques qui ont été initialement définies sont en train progressivement d'être opérationnelles, évidemment avec le soutien de la MONUSCO, mais aussi avec l'engagement des autorités de la CENI et des autorités provinciales qui soutiennent ce processus, qui encourage et qui sensibilise les Congolais à aller s'enrôler massivement pour que quand même ils puissent leur voix puisse compter demain lorsque les élections seront organisées. Donc retour ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une à gauche. Oui, passez le micro là-bas s'il vous plaît.
Roger Marley, le Congo pour le Paris. Une conflagration persiste dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, précisément au nord de la province du Katanga, sans pour autant que nous puissions connaître les tenants, les vrais tenants et aboutissants de ce conflit. J'aimerais savoir, en quelques mots, quelle explication la MONUSCO fournit-elle comme base de ce conflit qui oppose les pygmées toa au Bantou Lubafone.
Oui, merci pour cette question. Vous avez posé une question qui est pertinente, mais je voudrais d'abord indiquer que c'est un conflit intercommunautaire, donc qui oppose deux communautés bien précises, les Luba et les Toa, depuis un certain temps. Cette situation est tellement préoccupante que je vous ai dit à l'entame de cette conférence de presse que M. David Grécy, le représentant spécial en charge des opérations à l'Est, est présentement dans le Tanganyika, justement pour aller premièrement se rendre compte réellement sur le terrain des développements, mais aussi de toutes les informations qui nous parviennent ici. Deuxièmement, ceci aussi lui permettra d'interagir avec les autorités provinciales, les autorités de la province du Tanganyika, mais aussi les autorités locales et coutumières, afin de voir quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour essayer de favoriser ou en tout cas de promouvoir la cohabitation pacifique entre ces deux communautés. Les raisons profondes de cette crise sont nombreuses et diverses. Je pense même qu'il faudra peut-être indiquer que cette crise est une crise à la limite séculaire, parce que depuis très longtemps elle revient, elle se calme, etc. Donc c'est pour cela aussi que dans ce cadre, il faudra des mécanismes bien précis, des mécanismes qui soient complètement distincts de ce que la force de la MONUSCO, ou en tout cas la MONUSCO, fait de manière très globale. Nous avons accompagné ce processus. Les affaires civiles de la MONUSCO, les autorités de la MONUSCO, la section PIO de la MONUSCO aussi ont accompagné ce processus pendant les campagnes de sensibilisation qui ont été menées, mais aussi les autorités provinciales s'investissent, et il est bon que ce soit au niveau national, au niveau coutumier, au niveau local, au niveau provincial, mais aussi avec l'appui de la MONUSCO, que tout ceci puisse être fait. Nous avions aussi déjà apporté notre soutien logistique aux autorités locales dans le cadre de la résolution de cette crise, et aussi pour assurer la sécurité des populations civiles, nous avions dans un premier temps ouvert une base opérationnelle à Nyonzou qui a fonctionné pendant très longtemps et qui a permis de calmer la tension. Et ensuite, nous sommes venus à Kabalo où nous avons encore ouvert une autre base opérationnelle pour prendre en compte cette menace sécuritaire qui prévaut dans cette région-là, et aussi contribuer auprès des forces de défense et de sécurité congolaises à la résolution de ce problème. Mais comme je le dis, au-delà de l'action militaire et de la présence dissuasive des forces de défense et de sécurité, il faut relever qu'il faut une implication et d'autres mécanismes qui soient ce que nous connaissons d'habitude pour que ces deux communautés puissent vivre en paix et en harmonie pour le bien de tout le monde. Donc je prends une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, passez le micro à droite.
Merci.
Allô. Allez-y.
Oui, c'est Rigobert Kabogo pour.
Oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît.
C'est Rigobert Kabogo pour l'agence civile.
Oui.
Je voulais revenir sur la première question qui a été posée. Excusez-moi de parler de la militaire. Apparemment, j'ai l'impression que la MONUSCO minimise la présence des ex-rebelles à l'est de la RDC. Parce que l'opinion nationale a appris de la bouche d'un officier congolais, en l'occurrence le gouverneur Julien Paluku, qui a présidé un point de presse pour confirmer la présence des ex-M23, avec en tête le général Sultani Makenga qui venait de s'évader dans son quartier général en Ouganda, et ils étaient en route vers Bunagana. Alors, ma question est celle de savoir si pouvons-nous croire à ce que vous venez de nous dire ou à ce que le gouverneur Julien Paluku a communiqué au peuple congolais la fois dernière.
Oui, merci. Mais vous savez, vous avez le choix. Croire à la MONUSCO ou ne pas croire à la MONUSCO. Mais ce que nous vous livrons ici comme information, ce sont des informations vérifiées, vérifiables. Je ne prendrai pas en compte votre tendance à vouloir instaurer des déclarations conflictuelles entre les deux autorités. Je veux dire que Les déclarations que je vous donne ici engagent la MONUSCO. Les autres déclarations ne nous engagent pas et je ne veux pas spéculer là-dessus. Ce que je vous dis, ce sont des actions concrètes qui sont menées sur le terrain par la MONUSCO. Nous ne négligeons pas, nous ne minimisons pas cette information-là. Au contraire, nous la suivons de très près. Nous sommes mobilisés parce que je vous ai dit que si cette information s'avérait vraie, nous avons un problème. Et un problème qu'il faut régler, c'est un problème sécuritaire. Si nous avons engagé et défait le M23 en novembre 2013, c'est à cause de la menace que le M23 posait premièrement sur les populations civiles, deuxièmement sur l'instauration, la restauration de l'autorité de l'État qui se faisait progressivement dans toutes les provinces du pays. Et donc, nous avons l'obligation morale d'engager ou en tout cas de neutraliser le M23 si toutefois cette opération et si toutefois cette information était vraie avec les forces de défense et de sécurité congolaises qui sont sur le terrain. Je pense que vous êtes journaliste. Pourquoi vous n'avez pas interpellé les autorités militaires congolaises du Nord Kivu qui sont présentement sur le terrain? Donc, je n'entre pas dans cette polémique. Ce que je vous dis, ce sont des informations en notre possession. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons. Le mécanisme conjoint de vérification qui a cette responsabilité de vérifier ça, parce que n'oubliez pas que le mécanisme est une création de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs qui, à l'époque du M23, avait mis en place 3 structures. Ce qu'on appelle le Military Assessment Team, ça veut dire l'équipe d'évaluation militaire qui était censée faire la cartographie et évaluer les moyens militaires du M23. Ensuite, nous avions le Joint Fusion Information Center, qui est le centre conjoint de recueil, de traitement et d'analyse de l'information du renseignement. Et ensuite, la troisième structure, c'est le mécanisme conjoint de vérification qui a été mis en place justement pour chaque fois qu'il y a des allégations de ce type, vérifier si les informations sont vraies. Là, je pense que le mécanisme a fait ses preuves dans le passé. Vous vous rappelez qu'il y avait eu des conflits le long de la frontière vers le Nord Kivu avec les autorités, avec les forces de défense et de sécurité rwandaises sur la dispute d'un point bien précis qui était à la limite frontalière des deux pays. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Maintenant, je ne peux pas dire plus. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais vous êtes libre aussi de venir à mon bureau. On vous donnera un MOPI. Allez sur le terrain, allez croiser l'information et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez la responsabilité de la relayer aux populations congolaises. Merci donc. Je repars à Goma pour prendre 2 questions. Nous avons encore un peu de temps. Goma, vous avez 2 questions rapidement. Il nous reste 5 minutes.
Oui, je m'appelle Alain Lamé, je suis journaliste indépendant depuis Goma. Tenant compte de l'appui logistique et sécuritaire que garantit la MONUSCO pour le bien de la RDC, la MONUSCO ou les Nations Unies sont-elles prêtes à se conformer au chronogramme de la classe politique au travers les rencontres de la CENCO afin de planifier les opérations électorales dans les délais?
Oui.
C'est une question. Est-ce que les Nations Unies sont prêtes à se conformer au chronogramme de la classe politique au travers des différentes négociations afin de faciliter, avec l'appui logistique et sécuritaire, l'organisation rapide des élections en RDC?
Oui, merci pour... Oui, merci pour votre question. Évidemment, je pense que je l'ai répété à suffisance ici lors de nos différents échanges, de nos différentes rencontres. Ce dialogue est un dialogue entre Congolais qui doivent définir de manière très claire ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, des progrès significatifs ont été faits sur le plan politique. Des mesures de décrispation sont aussi observées, mais aussi l'engagement et la détermination des acteurs politiques qui ont eu à un moment à prendre des responsabilités historiques face au peuple congolais pour dénouer la crise que nous vivons aujourd'hui. Il faut se féliciter des efforts que continue de faire la CENCO pour essayer d'amener tous les acteurs politiques autour des mêmes objectifs. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont très avancées. Il y a juste deux ou trois points qu'il faudra tout simplement mettre en œuvre. Ça veut dire au niveau des arrangements techniques qui se poursuivent, parce qu'aujourd'hui, la reprise de ces négociations devrait se faire avec la feuille de route de toutes les entités parties prenantes à cet accord-là, qui devraient soumettre leur feuille de route afin qu'on puisse aller vers de l'avant. Mais la MONUSCO ou les Nations Unies, de manière très générale, n'ont jamais dévié de leurs objectifs principaux. Il s'agit d'accompagner, évidemment, le processus. Mais le plus difficile, ce sera la mise en œuvre de l'accord. Tout le monde en est conscient. Et c'est pour cela que nous nous tenons à côté de tous ces acteurs politiques pour impulser la machine. Mais la responsabilité appartient aux acteurs politiques de définir clairement leur feuille de route et le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé le 31 décembre et pour lequel, d'ailleurs, la CENCO continue de pousser pour que les arrangements techniques puissent être une bonne fois pour toutes bouclés et qu'on aille vers l'essentiel. L'essentiel, c'est après la mise en place d'un gouvernement de transition, après c'est la mise en œuvre du chronogramme des élections, si vous voulez, le calendrier électoral, un certain nombre d'actions qu'il faudra prendre dans le futur pour qu'on puisse aller vers des élections crédibles, transparentes. N'oubliez pas que 2017 est une année considérée comme une année de transition pour les acteurs politiques. Donc voilà ce que je peux dire à votre requête. Je reste donc à Goma, je pense, pour une deuxième question. Très rapidement, Goma. Goma.
Oui, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Trésor Kakule Kamaku. Je suis le correspondant de la tempête des tropiques de Goma, ici à Goma. Mais je voulais juste parler par rapport à Beni. Maintenant, vous dites, vous accompagnez le FRDC. Mais quel est votre impact pour accompagner? Mais il y a beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, demain, après-demain. Maintenant, on voulait savoir quel est votre accompagnement. Merci beaucoup.
Oui, merci. Je pense que je reste à Goma pour passer cette question au lieutenant-colonel Serge pour des éléments de réponse. Mon colonel, vous avez compris la question?
Oui, c'est... Merci. Je réponds à votre question. L'accompagnement que la MONUSCO, dont vous faites allusion avec la FRDC, est en marche. Cet accompagnement est en marche. Parce que, conjointement avec la FRDC, la MONUSCO a initié un certain nombre de patrouilles conjointes et robustes. MONUSCO-FRDC dans toute la zone, la région de Bénin. Actuellement, à l'heure où nous parlons, d'autres opérations sont encore en cours et dont j'ai fait allusion tout à l'heure dans le texte qui a été présenté. Il y a l'opération SWIP à Butembo, dans toute la zone. Il y a l'opération Eagle Eye dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Ce qui veut dire que la collaboration entre les FRDC et les forces de la MONUSCO est en marche et au fur et à mesure qu'il y aura des éléments qui vous permettront d'apprécier ce qui est fait, on mettra à votre disposition. J'en ai fini.
Oui, peut-être juste pour compléter et vous dire que, encore très récemment, je pense que vous vous rappelez de l'opération qui a été menée dans le Triangle, l'opération Oussalama 1, qui a été renouvelée. On a encore mené l'opération Oussalama 2. Mais au-delà de cela, nous avons aussi lancé l'opération Similiki. Et toutes ces opérations-là ont engrangé des résultats qui sont quand même assez satisfaisants dans cette lutte asymétrique contre les rebelles de l'ADF. Vous avez parfaitement raison d'indiquer que ça et là, nous enregistrons certaines tueries. Et c'est pour cela que je dis, nous avons revisité certaines certains mécanismes avec les FRDC. Il faut aussi se féliciter des initiatives qui ont été prises par le commandement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment en mettant en place des mécanismes qui permettent aujourd'hui de mieux contenir les ADF. Aujourd'hui, l'ADF est éclaté en plusieurs groupuscules, c'est vrai, qui s'en prennent aux populations démunies, des populations quand même sans armes, et qui sont là à commettre des crimes innommables. Et c'est tout cela qui, dans une certaine dynamique pour 2017, a été pris en compte par ces deux entités, et nous mettrons tout en œuvre pour ou neutraliser définitivement l'ADF, en tout cas lui faire subir un taux d'attrition assez significatif qui lui permette de pouvoir aller vers un processus de reddition. Radio Okapi. Okapi.
Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que vous présente Belinda Bosuma.
Les opérations concernant les différentes provinces. Et sans tarder, nous revenons ici à Kinshasa pour ouvrir la séance des questions et réponses. Donc je commence par la gauche. Nous prenons deux questions avant de repartir à Goma. Une question à gauche, une question à droite. Passez le micro ici, s'il vous plaît.